Bon, remontons le temps et examinons tous ces mouvements sociaux, ces mouvements utopiques.
Plus de 100 000 hommes ont été pendus pour le crime odieux de ne pas travailler.
Puis nous avons commencé à comprendre que le génie individuel, des artistes comme Shakespeare, des scientifiques comme Newton ou d'autres, fait avancer l'histoire. Ce fut un moment historique qui a révélé que le rôle de l'économie aujourd'hui n'était pas particulièrement différent de celui de la Bible au Moyen Âge. Nous sommes donc potentiellement confrontés à un jugement dernier laïque. Il y a des périodes d'expansion et de récession, des monopoles, des inégalités. Mais je pense qu'avant l'agriculture, nous vivions la réalité, notre place dans la nature d'une manière légèrement différente. Et je pense personnellement que je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose dans notre ADN, quelque chose qui aspire à cette sensation de connexion à la nature, à quelque chose de plus grand que nous. Et que nous possédions quelque chose. Autrefois, nous nous identifions fortement à un groupe et à un lieu. Et maintenant, bien sûr, nous sommes passés de la famille à l'individuel, pour entrer dans cette sorte d'avatar et de monde de la célébrité que nous connaissons aujourd'hui. Je m'interroge là-dessus. Je ne suis pas sûr que cela nous apporte l'intimité que nous souhaiterions tous. La propriété, à une époque où elle était très lâche et partagée au sein du groupe, nous permet aujourd'hui, bien sûr, de posséder des idées et tout le reste. Encore une fois, je me demande si cette tendance va nécessairement dans la bonne direction. L'économie, lorsque nous avions une économie du partage et une économie du don, évolue vers un monde où les plus démunis gagnent le plus et ceux qui gagnent le plus gagnent le moins. La dépendance, très peu présente dans de nombreux groupes autochtones, semble être une épidémie dans nos sociétés, en particulier les comportements non exprimés comme la cupidité, qui, je pense, nous pousse, nous et notre société, d'une manière que je remets en question. Les chasseurs-cueilleurs, qui vivent dans un état de conscience très présent, comme ils doivent l'être pour pouvoir chasser, sont très présents. Ils ont peut-être une façon différente d'utiliser leur esprit, leur cerveau, qui leur apporte une perception, une perspective différente de la réalité, très difficile à comprendre pour nous. Mais je pense aussi qu'il existe de nouvelles pistes vraiment intéressantes à explorer, comme la possibilité d'autres façons de voir le monde, qui pourraient également être très valables pour nous tous à cette époque de l'histoire.
Je commence bien avant 2500 ans. Je remonte à 9000 ans, au Chatwick néolithique, qui se trouve aujourd'hui en Turquie contemporaine. Ce qui est fascinant à propos de Çatalhöyük, c'est que ce site archéologique a été fouillé. Il a été construit à une époque où l'agriculture était à ses débuts et où les habitants de Çatalhöyük vivaient dans une immense habitation. Pour y accéder, il y avait un trou dans le toit et une échelle. On entrait dans la maison par le toit, en passant par l'échelle. Les toits de cette mégapole étaient en fait de vastes pièces à vivre communes où chacun interagissait socialement. Or, voici ce qui est le plus fascinant à propos de Çatalhöyük. Les archéologues ont découvert que, dans ces habitations individuelles, des ossements étaient enterrés sous le foyer. Grâce à la technologie de l'archogénétique, ils peuvent maintenant prélever ces ossements et tenter de déterminer l'identité de ces personnes. Alors, qu'ont supposé les archéologues? Ils ont supposé que les personnes enterrées ici au même moment étaient des parents par le sang. Devinez quoi? Ce n'était pas le cas. N'est-ce pas? Ces résultats pourraient donc suggérer que l'inclusion pour l'internement dans une maison n'était que très peu liée à l'affinité biologique. Le site aurait pu être organisé selon une définition alternative de la parenté, non définie en termes de liens génétiques. Notre définition même de la famille ne s'appliquait donc pas à cette période. Alors, ce que je fais, c'est dire, bon, remontons le temps et examinons tous ces mouvements sociaux, ces mouvements utopiques qui ont décidé qu'un groupe de personnes qui allaient vivre ensemble le ferait dans un groupe non consanguin. Donc, sans lien de sang. L'un des plus intéressants est celui des pythagoriciens. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Pythagore comme le « homme du triangle », n'est-ce pas? On l'enseigne dans tous les collèges où l'on fait de la géométrie, n'est-ce pas? Mais ce qu'on n'apprend pas, c'est que Pythagore était l'arrière-arrière-grand-père de la pensée utopique. Il a fondé une communauté. Il a quitté la Grèce continentale avec un groupe de ses disciples et s'est installé dans ce qui est aujourd'hui l'Italie du Sud, dans un village appelé Crotone. Et ils vivaient ensemble. Ils partageaient toutes leurs ressources. Ils avaient un dicton. « Je vais massacrer le grec ancien ici, coin aphilon », ce qui signifie « entre amis, tout en commun ». Nous savons, grâce au philosophe du IIIe siècle, Amicla, que le mode de vie pythagoricien a influencé Platon. Lorsque Platon écrivait la République, sa cité idéale de Kallipololis s'inspirait largement de ce qu'il comprenait comme mode de vie pythagoricien. On voit ici que Pythagore souhaitait véritablement repenser la structure familiale, tout comme Platon. Platon voulait donc libérer ses tuteurs, et c'est une citation du 5e livre de la République, des factions que la possession de biens, d'enfants et de familles engendre parmi les gens. Si les tuteurs acquièrent eux-mêmes des terres, des maisons et de l'argent, ils deviendront des gestionnaires de foyers et des agriculteurs plutôt que des tuteurs, des maîtres hostiles aux autres citoyens plutôt que leurs alliés. C'est le 3e livre. Hors de la tradition occidentale, les premiers moines cénobites étaient des bouddhistes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les moines cénobites sont des groupes de moines qui vivent ensemble, contrairement aux moines aromatiques, qui vivent seuls en ermite. Il existe également des preuves très intéressantes concernant un groupe appelé les Esséniens en Judée, qui existait entre le 2e et le 1er siècle après Jésus-Christ. Ils vivaient en communauté. Ils partageaient leurs biens. Nous savons aussi que la Bible, encore une fois, c'est un fait peu connu. Acte 2 montre clairement que les premiers disciples du Christ vivaient en communauté. Tous les croyants vivaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens pour les donner à ceux qui en avaient besoin. Et au cas où vous n'auriez pas compris le message la première fois, il est répété dans Acte 4. Les croyants partageaient leurs biens. Tous les croyants étaient unis de cœur et d'esprit. Personne ne prétendait posséder quoi que ce soit, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. De temps à autre, ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient, apportaient l'argent de la vente, le déposaient aux pieds des apôtres et le distribuaient à tous ceux qui en avaient besoin. Ces passages de la Bible sont essentiels à la création du monachisme cénobitique chrétien au IIIe siècle APR. J.C., dans l'Empire romain d'Orient, puis en Europe. Ce mouvement est introduit par saint Benoît de Nury, qui rédige la règle de saint Benoît en 530 APR. J.C., un texte citant les Actes des apôtres, décrivant comment des personnes non soumises au sang pouvaient vivre ensemble en communauté, en harmonie les unes avec les autres et avec la nature.
Les Athéniens de l'Antiquité avaient une conception du temps bien plus sophistiquée que la nôtre. Socrate, Aristote, Platon et d'autres divisaient le temps en 6 types d'activités. Le premier était le travail. Le travail était effectué par les banosois, les métèques, les esclaves. Il était effectué pour obtenir une valeur d'échange, et le citoyen s'efforçait de l'éviter autant que possible. Il faisait la distinction entre travail et labeur. Le travail était l'activité du citoyen. C'était une société esclavagiste, une société sexiste. Je ne veux donc pas trop romancer les choses. Je parle des concepts. Essentiellement, le travail était ce que l'on faisait avec ses amis, avec sa famille, à la maison. Il était lié à l'échec, à l'amitié civile. Une dernière activité que les Grecs reconnaissaient, et c'est très important pour mon récit dans ce livre, c'est ce qu'on appelle l'éronos. Or, l'éronos était essentiellement la base du partage des activités en société, et le partage des biens communs est le thème central de notre histoire ancienne. Car, après le codex de Justinien, et je ne veux pas entrer dans les détails de 529 après Jésus-Christ, on a reconnu que les biens communs étaient une forme légitime de propriété, et le verbe « communiser » était considéré comme un élément essentiel d'une bonne société. Cela s'est poursuivi dans les deux documents constitutionnels de notre État, la Charte de la Forêt et la Magna Carta de novembre 1217. Elles définissent notre Constitution. Et ce qu'ils ont fait, c'est reconnaître le droit de travailler dans les biens communs. Le droit aux biens communs et toutes les luttes de classe que l'on retrouve à travers notre histoire ont été le fait des petits roturiers qui voulaient préserver le droit au travail, tandis que l'État et le capital voulaient imposer le devoir de travailler. C'était l'essence même de la révolte paysanne de 1381, de la rébellion de Kett en 1547, des niveleurs et des terrassiers, de la guerre civile du XVIIe siècle, du mouvement des cicatriseurs des années 1720, et de la lutte des classes qui a suivi, opposant les roturiers qui voulaient préserver la valeur du bien commun et du travail, tandis que les propriétaires terriens et les capitalistes émergents souhaitaient que les gens travaillent de plus en plus. En bref, ce système s'est effondré au XVIe siècle, et les tuteurs ont été les instruments de l'établissement des bases du capitalisme et de la prolétarisation de la majorité de la population. Et ils y sont parvenus grâce aux enclosures, notamment les immenses enclosures d'Henri VIII, et à l'introduction de dispositifs remarquables comme les lois sur le vagabondage des années 1540. Et le vagabond, sous le coup de la loi sur le vagabondage, était une personne prise en flagrant délit de ne pas travailler et qui était pauvre. La première fois qu'elle commettait une chose aussi horrible, elle était marquée d'un V. La deuxième fois, si elle était prise en flagrant délit de ne pas travailler, elle était pendue. Et ce que nos livres d'histoire oublient, c'est que plus de 100 000 hommes ont été pendus pour le crime odieux de ne pas travailler.
Ceux qui se focalisent sur les lumières se focalisent sur l'individualisme. L'individualisme radical est associé aux lumières. Mon point de vue est que les êtres humains sont avant tout des animaux sociaux qui se ménagent une place pour leur individualisme. Mais parce qu'ils sont avant tout des animaux sociaux, les êtres humains appartiennent à des tribus. Aujourd'hui, nous les appelons nations. Les êtres humains sont très tribaux. Et lorsqu'on appartient à une tribu ou à une nation, son identité est inextricablement liée à cette nation. On a des intérêts, on a des façons de voir le monde. On a des points de vue sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qui sont liés à l'appartenance à cette nation. En fin de compte, cela signifie que le sentiment que les individus font partie de nations, et que les nations divergent sur les principes fondamentaux, rend encore plus difficile de parvenir à un accord sur les réponses morales et politiques aux grandes questions de la vie. Commençons par la Révolution française. Cela a commencé en partie parce qu'en France et en Angleterre, au Royaume-Uni, il y avait un groupe de personnes appelées « libéraux », qui pensaient que c'était une bonne idée d'avoir la liberté de choix, et cela s'étendait de la liberté de croire en ce qu'on voulait, de fréquenter des églises, au libre marché. C'est donc un groupe de « libéraux », comme ils se nommaient eux-mêmes, qui se sentaient libres de choisir, qui a créé le libre marché, ce qui a finalement conduit au roi Louis V XVI, décapité. Et enfin, il y a une technique dans ce tableau. Louis a été décapité grâce à une nouvelle technique, plutôt qu'à la hache. Personne n'était impliqué. 30 ou 40 ans plus tard, nous sommes à Lyon, dans le sud-est de la France, et les ouvriers de la soie se révoltent. Ils se révoltent parce qu'ils sont remplacés par des machines. D'accord ? Ils sont remplacés par des machines et ils voient bien qu'ils perdent leur emploi, mais ils sont aussi remplacés par des machines dans le sens où l'idée de créativité et l'idée d'un artisanat se perdent. Les choses se standardisent et on commence à parler d'aliénation. Nous sommes aliénés de nos méthodes de travail d'avant. L'effervescence qui régnait à Lyon à cette époque a conduit à la création du Parti communiste, non pas par Karl Marx ou Friedrich Engels, mais par un certain Kab. Voilà donc l'origine du Parti communiste. Mais en 1848, des révolutions éclatent dans toute l'Europe, à commencer par la France. Et à ce moment-là, deux groupes de personnes s'intéressent à ce qui se passe. On a les libéraux qui ont instauré la Révolution française, la liberté de choix, la technologie, le progressisme, etc. On a aussi Marx qui a emprunté le mot communiste au Parti communiste, auquel il n'avait rien à voir, mais qu'il voyait comme la vague à venir. Et les deux groupes s'intéressent aux technologies que nous utilisons. Les libéraux y sont totalement favorables. Être progressiste, c'est avoir de nouvelles machines, adopter rapidement les technologies. Marx se préoccupe davantage de l'aliénation et est conscient que les technologies génèrent de l'argent, et il commence à intégrer ou à prendre en compte les intérêts capitalistes existants. Mais les communistes et les libéraux sont tous deux favorables au droit de vote pour tous. Tous deux sont favorables à l'éducation universelle. Ils voient tous deux l'État dépérir. Le roi, la classe aristocratique, les propriétaires terriens, eux aussi, dépérir. Nous nous intéressons à ce qui fait avancer l'histoire. Et avant la révolution industrielle, nous pensions que la providence divine dirige l'histoire. On n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Dieu veille sur nous et il ou elle a une idée précise de ce qui se passe, et tout finira par s'arranger. Puis on a commencé à penser que des artistes de génie comme Shakespeare, des scientifiques comme Newton ou d'autres, c'est leur génie qui fait avancer l'histoire. Avec Marx, on a de nouvelles technologies profitables à un groupe de personnes. Et on a l'idée que les technologies, soit la lutte des classes, vont faire avancer les choses grâce à une technologie qui fonctionne. On a un, si X alors Y. C'est un algorithme simple, un simple réflexe. Mais en 1990, un peu avant, Max Weber a introduit l'idée que nous nous sommes débarrassés de la classe aristocratique et que nous avons eu la démocratie, ce qu'on appelle, mais en réalité, on a fini par avoir une bureaucratie, un gouvernement par la technique. On établit des procédures. E, si X, alors Y si la personne coche les cases X, Y et Z, on fait ABC ou autre. Weibo était plus préoccupé par le fait que si des procédures étaient mises en place et que cela résolvait un problème social, eh bien, il n'y aurait pas de fin à cela et nous pourrions continuer à en mettre en place en permanence. Ce qui l'inquiétait, c'était que la paperasse finirait par régir notre vie. Il parlait d'une cage de fer. Nous serions piégés dans une cage de fer. De nos jours, on parlerait d'état profond. Et c'était sans limite, disait-il. Et c'était aliénant, tout comme les ouvriers de la soie pensaient que les nouvelles machines l'étaient. Or, le néolibéralisme, quand on lit les histoires, on entend des gens se référer aux travaux de personnes comme Friedrich Hayek. Hayek avance l'idée, avec d'autres comme Van Mises et d'autres, vers la fin des années 1930 et le début des années 1940, que le socialisme est allé trop loin. Mais ils étaient également préoccupés par la social-démocratie. Ils ne pensaient pas que c'était une bonne idée et voulaient que nous revenions au libéralisme des années 1840. Le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas vraiment à envisager des marchés totalement libres au sens où nous les connaissions dans les années 1840. Ils s'intéressent à l'empiètement de la bureaucratie, mais d'autres phénomènes rendent impossible tout retour aux années 1840. L'un de ces phénomènes est le développement des ordinateurs, qui s'est déroulé parallèlement aux réunions du groupe Mont Pèlerin, généralement considéré comme celui qui a contribué à la création du néolibéralisme. Le premier terme pour désigner les ordinateurs dans ce domaine était la cybernétique, qui s'intéressait au thermostat et qui partait de l'idée d'un thermostat, une simple machine qui allume et éteint le chauffage quand on en a besoin. Ces organigrammes sont devenus la base d'une nouvelle science apparue après la Seconde Guerre mondiale, le management. Lorsque les troupes et les officiers américains sont revenus de la Seconde Guerre mondiale, on leur a offert la possibilité d'aller à Harvard et à Yale pour obtenir un BA, un nouveau type de diplôme mis en place pour aider les anciens dirigeants militaires à gérer les usines américaines par la suite. J.K. Dalrès s'intéresse au libre marché et affirme que le discours américain est entièrement axé sur le libre marché. Nous avons besoin d'entrepreneurs. Mais si vous regardez les entreprises actuelles et leur capacité marketing, elles ne répondent pas à vos besoins. Elles nous répondent à nos désirs. L'autre aspect de leur profil, ce sont les diplômés de Harvard et de Yale, titulaires de MBA, qui se présentent comme des entrepreneurs et des preneurs de risques. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez de plus près le travail des PDG de ces entreprises, ce sont des bureaucrates. Et voici Milton Friedman, un personnage totalement différent de Galbraith, à l'opposé du spectre politique, qui affirme « Vous savez, nous avons remplacé la démocratie par un gouvernement du peuple par les bureaucrates pour les bureaucrates. » On parle de « réduction de l'État » et c'est la rhétorique des républicains ces jours-ci. Pourquoi ces changements? Lorsque Trump arrive au pouvoir, il n'est pas en mesure de changer l'appareil d'État pour ouvrir les choses aux États-Unis, car il est frustré par les bureaucrates, l'État profond. Mais de la même manière, beaucoup d'entre nous se disent « Nous avons d'énormes entreprises comme Google et Facebook qui nous contrôlent, mais il s'agit d'un État profond corporatiste. » Nous avons donc des problèmes similaires des deux côtés. Le néolibéralisme, son élément central, a commencé au Chili à la fin des années 1970, où l'on a connu de l'inflation dans le monde occidental. Le Chili a connu un coup d'État et un dictateur a remplacé le gouvernement élu. L'économie est un désastre, entre le coup d'État, l'inflation et les interprétations de Pinochet de la Chicago School of Economics et de Milton Friedman en particulier. L'idée, introduite au Chili, selon laquelle on peut résoudre le problème économique simplement en contrôlant la masse monétaire, en fixant un objectif et en mettant en place un algorithme, est un peu comme un thermostat. Il suffit de contrôler la quantité de monnaie imprimée et tout le reste se réglera tout seul. C'est ce qui s'est produit au Royaume-Uni également. C'est l'autre pays qui s'est tourné vers le monitoring avant qu'on le qualifie de néolibéralisme. Ce fut Thatcher, puis Reagan. On entendait beaucoup parler à l'époque de leur volonté commune de déréglementer, mais ce n'était pas le cas. L'élément clé était l'introduction d'un objectif de masse monétaire. C'est l'introduction d'un objectif. Et la même approche par objectif a été introduite dans les entreprises. On a compris qu'une entreprise ne se contentait pas de gagner de l'argent. Elle a des responsabilités sociales. Mais ce qui a été introduit, c'est l'idée que le devoir d'un PDG est de maximiser la valeur actionnariale. Tout se résume à un chiffre. Quelle est la valeur du cours de l'action? Si vous avez un objectif pour la masse monétaire ou le cours de l'action, cela permet aux gens de prédire l'avenir et de commencer à parier dessus. Et vous avez l'émergence de fonds spéculatifs qui parient et deviennent si puissants que même un gouvernement peut dire qu'il va les ignorer. Depuis 45 ans, nous avons essentiellement placé l'individu et ses préférences au centre de l'univers moral, économique et social, en partant du principe que les individus, livrés à eux-mêmes, s'organiseront pour trouver les meilleurs résultats. Les entreprises sur le marché, vous dans la société. L'intérêt personnel fait partie de la nature humaine. L'État est coercitif. Il doit être aussi restreint que possible. Maintenant, voici un point. Je ne suis pas anticapitaliste en soi. Je reconnais que le capitalisme, s'il est bien organisé, produit de l'innovation, de la croissance et du dynamisme économique. Mais voici le point, il ne permet pas d'obtenir les meilleurs résultats. Il y a des hauts et des bas, des monopoles, des inégalités et parfois une exploitation excessive. Il peut s'agir d'expérimenter, d'innover et d'aller de l'avant. Mais pour servir le bien commun, le capitalisme a besoin de repères, d'une gestion active et d'une insistance constante. Il inscrit l'obligation sociale dans son ADN. Et voilà où je veux en venir. Je pense que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne traverse la crise que nous connaissons tous, c'est que nous avons d'abord été Madame Thatcher en 1979, puis ses imitateurs ont tenté de transposer les maximes du fondamentalisme du marché équitable qui était en vigueur il y a 100 ans, en 1924, en septembre 1924. Ce fondamentalisme a en quelque sorte donné un sermon sur la fin du « juste », il y a 100 ans, et a clairement prouvé son inefficacité. Ça n'a pas fonctionné à l'époque. Ça ne fonctionne toujours pas. Et je pense que quatre grands désastres ont suivi le fait d'avoir essayé de suivre ces maximes. Le premier désastre fut le monétisme et la tentative de faire reculer l'État, ainsi que la désindustrialisation qui s'ensuivit. Puis, à ce deuxième désastre s'est ajouté le Big Bang de la déréglementation financière, qui a directement conduit à la crise financière de 2007. Nous sommes entrés dans cette crise avec nos banques qui prêtaient plus que de contreparties. La Royal Bank of Scotland avait 50 livres sterling de prêt pour une livre sterling de capital, un ratio de 50 pour 1, du jamais vu depuis la nuit des temps. Je pense que nous devrions commencer, comme vous le faites, par le livre, à la fin de l'histoire. Commençons par ce qui se passe, selon moi. Des événements assez connus se sont produits. Globalement, la croissance de la productivité a ralenti au cours de cette période. Ainsi, les revenus moyens par habitant dans les pays occidentaux connaissent des exceptions, mais c'est particulièrement important aux États-Unis, ils étaient plus lents qu'avant. Et cela a été associé, à mon avis, à l'une des grandes et profondes transformations économiques, la désindustrialisation. Cette désindustrialisation a frappé au cœur même de l'accord social-démocrate, car les syndicats étaient une force politique très importante. Ils ont fortement soutenu, par exemple, Roosevelt, et aussi, ici, le gouvernement travailliste, et tout le monde l'a reconnu pendant la période néolibérale. Non seulement les syndicats ont été attaqués, mais, plus importante encore, une profonde désindustrialisation a eu lieu. L'autre phénomène qui s'est produit durant cette période a été une dépendance accrue à la croissance du crédit, la croissance du secteur financier et sa domination croissante sur le secteur productif, parfois appelée financiarisation, dont je n'ai pleinement compris les implications qu'il y a 15 ou 20 ans. Et cela a eu de nombreuses conséquences. Le fonctionnement des entreprises, c'est évident. L'économie mondiale a fonctionné, mais l'une des conséquences a été l'un de ces échecs incroyablement visibles du système de marché, à savoir une crise financière colossale. Ce qui s'est passé, c'est la panique. L'économie s'est effondrée et, pour éviter une nouvelle grande dépression, j'ai participé à ces discussions. Chaque État a investi toutes ses ressources dans le système financier et tout le monde a pu constater l'existence d'un engagement explicite. À mon avis, ils n'avaient pas d'autre choix. On peut en discuter. J'ai beaucoup d'amis qui pensaient que la Grande Dépression devait se reproduire, car cela leur servirait de leçon. Je ne suis pas très favorable à ce type d'approche de la politique économique. Quoi qu'il en soit, cela a discrédité une grande partie de l'élite, surtout, je pense, et surtout, cela a discrédité les visions traditionnelles, que j'appellerais républicaines traditionnelles, du marché dans l'État, et les visions conservatrices traditionnelles. La conséquence en est le populisme de droite, qui s'est emparé de la droite, car l'optimisme de Reagan-Thatcher sur le fonctionnement de l'économie de marché a été politiquement anéanti. Et cela a pris quelques années, mais fondamentalement, c'est ce qui s'est passé, et c'est arrivé. Et c'est arrivé dans une certaine mesure presque partout ailleurs, même en Allemagne, maintenant, parce que ce scénario ne fonctionne plus bien après une crise financière colossale. Pour mener une politique économique socialement utile, les décideurs politiques doivent savoir non seulement mettre de côté les modèles économiques mathématiques au moment critique de la décision, mais surtout, comme le disait Keynes, être désintéressé, autrement dit, indépendant des intérêts particuliers, non pas du gouvernement, mais des intérêts particuliers. Par exemple, les financiers qui, après 2008, ont intimidé les décideurs politiques pour les amener à adopter une combinaison cynique d'austérité draconienne pour la grande majorité et d'impression monétaire essentiellement socialiste pour eux-mêmes. Ce fut un moment historique qui a révélé que le rôle de l'économie aujourd'hui n'était pas si différent de celui de la Bible au Moyen Âge, une source d'excuses pour les puissants. Il ressort clairement de l'analyse que je présente, fondée sur d'autres aspects, que la création de notre système fiscal, la réglementation financière, la mise en œuvre du système fiscal, la pression fiscale et la structure réglementaire, la politique de concurrence est un domaine particulièrement important. Nous n'avons pas réussi à empêcher l'émergence d'une oligarchie assez puissante. Il est également vrai qu'il existe actuellement une réaction négative à ce sujet. Je dirais que, pour l'instant, ce sont des petits pas. Et certains des problèmes de démonopolisation de notre économie sont structurellement extrêmement complexes, car nous avons plusieurs secteurs, dont le plus important est de loin le secteur informatique, où les monopoles de plateforme sont incroyablement puissants et façonnent l'économie. Le système d'information, pour ne prendre qu'un exemple, la décision la plus importante, probablement pour l'avenir de nos économies, voire de nos sociétés, concerne la mise en œuvre de l'IA. Ces décisions seront prises par 5 ou 6 personnes, dont aucune ne siège au gouvernement. J'ai écrit dans ma chronique que je ne crois pas que cela puisse être réglementé. Je ne suis donc pas du tout confiant à ce sujet, mais je suis d'accord avec vous. Certains éléments montrent que la politique a réagi contre cela. Il n'est pas certain que la pression fiscale ait fondamentalement changé. Rien de radical n'a changé, mais le débat, lui, a évolué. Ce qui me frappe, c'est le peu d'intérêt politique que cela suscite. Je pense que cela s'explique en partie, et nous n'en avons pas parlé, mais cela nécessiterait une autre discussion approfondie, par l'absence d'une écosphère médiatique permettant de diffuser l'information politique à l'électorat. Et il ne peut y avoir de politique démocratique sans une sorte de machine permettant aux gens de s'accorder sur les faits et sur ce qui se passe. Et la réalité de leur système, qui est encore pire que le nôtre et qui présente de gros problèmes, et qu'il n'existe pas en Amérique. Donc, pour moi, la démocratie moderne est née avec la création des médias modernes. Cette relation a toujours été complexe, et je ne dis pas qu'elle a jamais été parfaite, mais nous avons la Nadia dans cette relation, en particulier aux États-Unis, ces derniers temps. Cela me pousse à penser raisonnablement à la démocratie, à la considérer comme une sorte de débat au sein de l'électorat sur les solutions à apporter aux problèmes convenus, mais qui ne fonctionnent tout simplement pas. Nous vivons une époque d'incertitude, contrairement à l'époque de la boisson et de l'État-providence. Aujourd'hui, notre insécurité est une question d'incertitude, et pour un économiste, l'incertitude est une question d'inconnu et d'insécurité. Si vous avez des probabilités de tomber malade, d'être au chômage, d'être enceinte ou autre, vous pouvez les calculer et avoir un système d'assurance. Avec des inconnus inconnus, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas vous assurer. Les gens subissent donc un stress incroyable, un stress existentiel, dû à la probabilité accrue de catastrophes, de pandémies, de crises financières et à l'absence de système de soutien social. Dans ces circonstances, il ne faut pas s'étonner de l'augmentation considérable des problèmes de santé mentale, des décès par désespoir, des suicides et des quasi-suicides, ainsi que de la perte de la capacité de travailler pour un nombre considérable de personnes. Ce n'est pas leur faute, et l'État ne devrait pas exercer une pression toujours plus forte sur les personnes réduites à ces situations. En espérant que l'un ou l'autre d'entre vous veuille acheter un exemplaire du livre, je ne vais pas détailler ma solution à ce problème, mais je vais vous dire ceci. Il s'agit avant tout de redéfinir ce que nous entendons par croissance. Deuxièmement, il s'agit de relégitimer toutes les formes de partage et de bien-être, et de trouver des solutions pour y parvenir. Troisièmement, nous devons construire un nouveau système de répartition des revenus, car le capitalisme rentier signifie qu'une part croissante des revenus revient aux propriétaires. Une part de plus en plus faible revient à ceux qui dépendent du travail. C'est établi. C'est un phénomène mondial, d'accord? Et la situation va empirer avec l'IA, le capitalisme rentier, les droits de propriété intellectuelle, etc. Nous devons progresser au plus vite vers un revenu de base universel. Cette pensée systémique et contrôlante, propre à l'hémisphère gauche, qui vise à exercer un pouvoir maximal pour faire exactement ce qu'il veut, a engendré la bureaucratie et l'IA. Avec le déclin de la civilisation grecque et romaine, l'IA était absente, mais la bureaucratie était bel et bien présente. Elle est devenue un étranglement de la pensée, de la créativité, du sens de la beauté, des proportions, de la moralité, de tout. Elle est devenue une sorte de couverture du monde par un réseau de règles étroites et complexes. Mais nous disposons désormais d'une IA qui peut encore approfondir ce sujet. Mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas intelligent. Elle n'a fait que gérer des millions et des millions et des millions de processus de manière totalement inintelligente. Il est intéressant de noter que la bureaucratie, soit dit en passant, n'est pas une conspiration de personnes au pouvoir pour nous contrôler. Elle la contrôle elle-même. Il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'elle qui les contrôle, et cela se manifeste à travers la façon dont le monde évolue. Même les bureaucrates de la Silicon Valley découvriront qu'ils ne peuvent échapper au filet que leur tend leur propre IA. Il y a une sorte de perte de liberté due à un contrôle insidieux. Inutile de le souligner. Ce phénomène a considérablement augmenté ces 10 dernières années en raison de la combinaison de la bureaucratie gouvernementale et de l'IA, aidée par ce petit virus. Et ce processus entraîne une perte de confiance importante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un empereur chinois du IIIe siècle a dit que pour qu'une société prospère, il faut trois choses, les armes, la nourriture et la confiance. Et s'il faut sacrifier l'une d'elles, donnez les armes. Et s'il faut sacrifier l'autre, donnez la nourriture. Mais ne sacrifiez pas la confiance, car sans elle, la société ne peut pas fonctionner. Je vois ce phénomène se produire autour de nous. Nous sommes si nombreux, nous ne nous connaissons pas. Nous ne comprenons même pas les façons de penser des autres et nous ne pouvons pas nous faire confiance. Il faut donc mettre en place des mécanismes extrêmement sophistiqués pour empêcher les gens de tricher. Ensuite, les gens passent leur temps à chercher des moyens de contourner le système. Ensuite, quelqu'un d'autre doit passer encore plus de temps à chercher des moyens de les en empêcher. C'est un processus sans fin. Mais là, la confiance est absente. Et la confiance est extrêmement économique. Elle permet de supprimer des pans entiers de bureaucratie, soit 90%. On pourrait nous faire gagner du temps sur l'ordinateur si on pouvait se faire confiance. Ensuite, il y a une érosion des frontières, car les gens exigent des informations sur nous que nous n'aurions jamais données à des inconnus auparavant. Or, c'est la procédure, et aucun ordinateur ne dit non, etc. Il faut donc divulguer des informations, et bien sûr, nous sommes tous surveillés. Ceux d'entre vous qui sont sur leur téléphone maintenant, quelqu'un, quelque part, que vous ne connaissez pas, sait ce que vous faites. Voilà le monde dans lequel nous sommes entrés, et je pense que l'érosion des frontières publiques-privées est très grave pour la dignité humaine. C'est le jugement dernier, et on a l'impression, d'après tout ce qui a été dit dans les médias ces derniers temps, que l'intelligence artificielle va rendre les choses encore plus efficaces qu'avant. Elle va nous priver d'emploi, etc. Que va-t-il nous rester? Cela nous rend nerveux. Tout dépend de qui possède l'IA. L'IA à elle seule ne résoudra pas le problème. Il y a un problème plus important ici, quand je parle de tirer le meilleur du poison utile. Je ne sais pas si vous connaissez votre philosophie. Il existe de nombreuses théories sur le mal. L'une d'elles est que le mal n'existe pas. Il y a le bien ou l'absence de bien. Et le mal est l'absence de bien plutôt qu'un Lucifer personnalisé. Cela m'amène à dire qu'une des options possibles avec l'IA est de savoir à qui appartient l'IA, et ceux qui la possèdent peuvent décider qu'il y a trop de monde sur Terre et que nous ne voulons pas de tous les humains présents actuellement. Nous sommes donc potentiellement confrontés à un jugement dernier laïque, à savoir si nous serons parmi les élus, ceux qui sont méchants envers ceux qui possèdent l'IA ou qui l'ont programmée, ou non. L'autre aspect du mythe de la création, bien sûr, c'est Dieu, et voici l'ange Michel tuant Lucifer. Vous savez, c'est la victoire des gentils. Bon, je termine, je m'arrête là. Je ne vais pas en parler, mais c'est là pour ceux qui souhaitent y jeter un œil. C'est Václav Havel, il y a 50 ans, qui disait, « Vous savez, il arrive un moment où la seule option pour certains d'entre nous est de descendre. » C'est un point de vue très personnel. Mais je pense que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement que vous ou moi devenions des perturbateurs. Ce dont nous avons besoin, c'est que nous trouvions ensemble comment résoudre notre problème. Ce n'est pas seulement mon problème. Merci.